Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La mort de 3 pompiers au Maroc, ils luttaient contre un incendie dans le nord du pays. La nouvelle constitution tunisienne est adoptée avec 94,6% des suffrages, c'est le résultat définitif du référendum du 25 juillet dernier. Regard sur la situation sécuritaire au Mali après le départ de la force française Barkhane. L'armée a achevé son retrait du pays. Notre invité sera Sédic Abba, journaliste spécialiste du Sahel, auteur de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous chez Impact Éditions. La mort d'une personnalité politique libanaise, Farid Makari, ex-vice-président de la Chambre, est décédé. Ce cri d'alarme du syndicat étudiant Lafage, il estime à 7,38% la hausse du coût de la rentrée étudiante. Nous y reviendrons avec Anne-Laure Siriex, vice-présidente en charge des affaires sociales de Lafage. 3 pompiers sont morts en intervention au Maroc. 2 autres ont été grièvement blessés. Ils tentaient d'éteindre un incendie dans le nord du royaume, dans le massif forestier de Koudiat-Tefour. Un feu qui, selon une enquête préliminaire, est d'origine humaine. Les 5 pompiers étaient à bord de leur véhicule qui a chuté dans un ravin alors qu'ils luttaient contre les flammes. 4 hommes soupçonnés d'être à l'origine de cet incendie ont été interpellés et remis à la police judiciaire avant d'être déférés devant la justice. Les 2 blessés ont été hospitalisés à Tanger. Le mois dernier, des feux de forêt dans le nord du royaume avaient fait 4 morts. La nouvelle constitution tunisienne a été adoptée avec 94,6% des suffrages, le résultat définitif du référendum du 25 juillet dernier, résultat annoncé par l'autorité électorale tunisienne. Le taux de participation est de 30,5%. Cette nouvelle constitution renforce nettement les pouvoirs du chef de l'État. Avec ce texte, le président ne peut être destitué. Une 2e chambre sera également créée au sein du Parlement pour représenter les régions tunisiennes. Les partis d'opposition avaient appelé au boycott du scrutin. Après 9 années de présence, l'armée française a achevé son retrait du Mali, un départ après avoir été poussé vers la sortie par les autorités maliennes de transition issues du coup d'état militaire de 2020. Entretien avec Sédic Abba, journaliste spécialiste du Sahel. Il est l'auteur de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation chez Impact Éditions. Il revient sur la situation sécuritaire au Mali et sur le bilan de l'intervention française dans le pays. Sédic Abba.
On peut considérer qu'une première partie de la mission a été parfaitement accomplie sous le mandat de Serval, puisque comme on sait, Barkhane, c'est la continuation de Serval. Lorsque Serval a commencé en janvier 2013, la volonté était de libérer, d'empêcher d'abord la progression des groupes djihadistes du nord vers le sud, et ensuite de libérer les grandes villes du nord du Mali, qui était encore sous la coupe des groupes djihadistes, Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal. Et ce travail a été parfaitement accompli par Serval. Ensuite, quand il y a eu l'évolution de Serval à Barkhane à partir de 2014, les choses sont devenues compliquées parce que il n'y a pas eu simplement un changement de dénomination, il y a eu un changement de mandat. La volonté était de lutter contre le terrorisme sur l'ensemble du Sahel. À peu près, pour donner un ordre de grandeur, c'est 2 500 km², soit 5 fois le territoire de la France. La lutte contre le terrorisme devait aller au-delà du Mali pour concerner le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie. Cela n'a pu se faire de façon aussi évidente que sous le mandat de Serval, parce que il y a eu le choix du tout militaire et sécuritaire. Et les autres questions, notamment le développement, la présence de l'État, la bonne gouvernance, n'ont pas été intégrées. Et du coup, la stratégie s'est un peu alisée. On s'est retrouvé par la suite, au bout de 9 années de présence militaire dans le Sahel, avec un résultat mitigé. 59 soldats français ont été tués dans cet engagement. Environ 8 à 9 milliards d'euros ont été investi dans la lutte contre le terrorisme, avec à la fin une situation aujourd'hui où le terrorisme n'a pas été contenu et il y a eu au contraire une extension du terrorisme du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Parce que comme vous savez, depuis quelque temps, Le Bénin a été la cible de plusieurs attaques terroristes, le Togo aussi, et on craint même, après la Côte d'Ivoire, et on craint même que d'autres pays du Golfe de Guinée soient attaqués. Donc globalement, on peut dire que autant le bilan de Serval a été un bilan positif, même éclatant, autant le bilan de Barkhane est beaucoup moins reluisant.
Ce départ est intervenu sur fond de relations particulièrement difficiles entre Paris et la junte au pouvoir au Mali.
C'est exact. C'est exact. Et je pense que le président Macron a été honnête de dire que nous partons, il a dit en février de cette année, nous partons du Mali parce que non pas que le travail que nous avons engagé était totalement achevé, mais parce que nous sommes dans une relation avec un pouvoir en place avec lequel nous ne pouvons plus continuer, à la fois parce que il y a la situation politique. À l'époque, la junte n'avait pas publié de chronogramme pour arriver à un régime civil. Elle avait des relations exécrables avec la CDAO qu'il avait suspendue en janvier. Ensuite, je pense que le tournant a été aussi le fait que la junte ait décidé de faire venir la Russie, et pas la Russie seulement, mais le groupe de sécurité Wagner, qui a été une sorte de casus belli. La France a considéré qu'elle ne pouvait plus continuer avec cette junte. Et l'Union européenne aussi. Après, on a vu que les relations se sont absolument dégradées, au point où en décembre de l'année dernière, l'ambassadeur de France a été expulsé de Bamako. Le Mali a demandé le départ des troupes françaises. Et aujourd'hui, on est dans une situation de relations vraiment exécrables entre la France et le Mali. Elles n'ont jamais été aussi dégradées, en tout cas.
La nouvelle articulation pour lutter contre le terrorisme dans la région, comment est-ce que vous pouvez la décrire?
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté d'être présent sans être visible. La France a un peu tiré les leçons de sa présence particulièrement au Mali, où il y a une présence française très visible, et à côté, pour l'opinion, en tout cas une partie de l'opinion, les résultats n'étaient pas concordants avec cette présence, n'étaient pas en adéquation avec cette présence. Et beaucoup, une partie de l'opinion qui a brûlé les drapeaux français, qui a fait des manifestations à Bamako, estimait que la France ne faisait pas autant avec les moyens qu'eux ils voient, avec les chars, avec les drones, avec le renseignement. Et donc la France a tiré un peu les enseignements de ça et a décidé d'avoir une présence beaucoup plus discrète, avec comme le Niger, comme tour de contrôle, comme épicentre de sa présence, et un peu le Tchad, où les forces vont être visibles, et ailleurs, sur l'ordre, avec au Burkina Faso, les forces spéciales, et dans le reste du Sahel, et puisque la mission, la réarticulation concerne aussi désormais les pays du Golfe de Guinée, et avec une présence moins visible dans les autres parties, et un accompagnement à la demande. Si le Bénin a besoin de formation, a besoin de renseignement, a besoin d'équipement, la France le lui fournit. Et ponctuellement, s'il y a une opération, comme on l'a vu au Burkina, les minages français qui ont volé au secours, qui sont venus participer à l'opération engagée par les forces militaires burkinabées. Donc, globalement, il s'agit d'une nouvelle articulation avec un nouveau paradigme qui est être présent sans être visible et en mettant devant les armées nationales, en favorisant leur montée en puissance pour éviter justement que la France soit critiquée demain en disant qu'elle n'a pas obtenu le résultat qu'elle aurait pu avec les moyens qu'elle a.
Et la fin de cette opération Barkhane aura-t-elle des conséquences sur les pays d'Afrique du Nord?
Absolument. J'ai vraiment la crainte, comme on a pu le voir récemment. Vous savez, il y a aujourd'hui une multiplication du nombre d'attaques, particulièrement au Mali. Et il y a, au-delà même de la multiplication, la complexification de ces attaques, puisque les groupes terroristes ont été capables ces derniers temps de faire 6 opérations coordonnées dans différentes villes. Ça, c'est absolument inquiétant. Et le fait qu'elles aient été capables de perpétrer une attaque récemment à Kati, qui est à 25 kilomètres, à 20 kilomètres même de Bamako, et qui est un des lieux emblématiques du pouvoir, puisque le président de transition a sa résidence dans le camp qui a été attaqué, tout ça amène à avoir des sérieuses inquiétudes sur la fin de Barkhane. La fin de Barkhane signifie une sorte de libération pour les groupes terroristes de la zone des trois frontières particulièrement, puisque l'armée française a cédé la dernière emprise qui est Gao. Avant, elle a cédé Menaka et Tombouctou. Donc, cette ce départ de Barkhane va créer un vide, à mon avis personnellement, que les forces armées maliennes dans l'état actuel ne seront pas capables de réoccuper. Et ce vide-là peut profiter justement aux djihadistes. Et le plus inquiétant, c'est que si ça ne se stabilise pas au Mali, ça ne va pas se stabiliser dans le reste, dans les autres pays, puisque la menace est partie du Mali et que les groupes terroristes sont encore plus actifs au Mali que dans les autres pays de la sous-région.
Sédic Abba, journaliste spécialiste du Sahel, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous chez Impact Édition. Au Liban, Farid Makari, ancien vice-président de la Chambre, ancien député grec orthodoxe du Koura, le bloc du futur, est mort ce mercredi matin. Farid Makari avait été entre 1995 et 1996 ministre de l'information du gouvernement de Rafik Hariri. Des frappes aériennes turques dans le nord de la Syrie ont provoqué la mort de 17 personnes, une information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est arrivé après des affrontements nocturnes entre les forces d'Ankara et les combattants kurdes. Le premier ministre irakien en charge des affaires courantes, Mustafa al-Kazemi, souhaite entamer un dialogue national avec les chefs des forces politiques. Objectif, sortir le pays de l'impasse politique. 10 mois après les dernières législatives, l'Irak attend toujours la désignation d'un nouveau chef du gouvernement et la formation d'une équipe gouvernementale. Regard sur le coût de la rentrée étudiante en France. Face à l'inflation galopante, il va nettement augmenter. Le syndicat étudiant, la FAGE, estime à 7,38% la hausse du coût de la rentrée. Entretien avec Anne-Laure Siriex, vice-présidente en charge des affaires sociales de la FAGE.
La FAGE a sorti son indicateur du coût de la rentrée pour 2022 pour un étudiant ou une étudiante non boursière de 20 ans qui est décohabitant, donc qui ne vit plus chez ses parents et qui s'inscrit en licence sans double cursus. Cette année, le coût de la rentrée il s'élève à 2 527 €. Et donc, on remarque une augmentation de 7,38% sur le coût de la rentrée, de façon générale. Et en fait, ce coût de la rentrée, il se décline en deux grandes catégories. D'une part, les coûts spécifiques à la rentrée. Donc, un étudiant va devoir débourser en septembre pour son inscription à l'université et... les autres dépenses qui sont inhérentes à un début d'année, à une rentrée. Et d'un autre côté, on va avoir les frais de la vie courante. Donc là, c'est ce qui va prendre en compte toutes les dépenses mensuelles d'un étudiant. Donc il va concerner plutôt l'alimentation, les produits d'hygiène, les produits du quotidien et le loyer.
C'est une hausse, bien entendu, liée à l'inflation qui n'est pas suffisamment compensée aujourd'hui par l'État.
Oui, en effet. Alors bon, c'est une hausse qui est inévitable, hein, puisque l'inflation, elle était au mois de juillet à 6,1%. Et effectivement, la compensation du côté de l'État, en tout cas les propositions qu'on a de compensation, c'est souvent tourné vers des étudiants et des étudiantes qui sont boursiers ou boursières, avec par exemple la hausse des bourses sur critères sociaux à hauteur de 4%, ce qui évidemment ne reflète pas finalement l'augmentation de l'inflation. Et puis on va avoir aussi une augmentation, une revalorisation des APL, donc des aides personnalisées au logement, à hauteur de 3,5%. Quand il y a 6 ans, par exemple, en 2017, elle baissait déjà. Et on va avoir aussi une aide exceptionnelle de rentrée qui est disponible pour les étudiants, soit allocataires des APL, soit boursiers-boursières, à hauteur de 100 €. Donc qui est une aide exceptionnelle qui est vitale, mais qui est ponctuelle et qui n'a pas vocation à être pérennisée dans le temps.
Vous nous dites qu'un étudiant qui ne peut pas être bénéficiaire d'une bourse, mais qui serait à la marge, se retrouve aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile.
Effectivement, oui. Quand en début d'année, on doit défrayer près de 2 530 € pour faire sa rentrée et qu'on n'a pas d'aides du coup qui sont proposées par le gouvernement, c'est très compliqué. Et c'est finalement ces publics-là qui ne sont pas intégrés dans le système des bourses qui vont être d'autant plus impactés par la précarité.
Vous lancez un cri d'alarme, notamment sur la précarisation des étudiants internationaux.
Oui, on a souhaité mettre un focus sur ces étudiants qu'on a dans l'enseignement supérieur français. C'est des étudiants qui déjà, pour arriver en France, doivent débourser énormément d'argent et qui, une fois arrivés sur le territoire, subissent encore à nouveau une inégalité de traitement, puisqu'on leur demande maintenant, depuis le plan Bienvenue en France qui a été créé en 2018, de s'inscrire à la fin de l'université à hauteur de 2 770 euros en licence et de 3 770 euros en master. Quand un étudiant qui vient du pays français et qui continue ses études en France va lui payer 170 euros pour une inscription en licence et 243 euros en master.
Vous déplorez aussi un accès inégal au dispositif pour les étudiants exilés.
Effectivement, on constate, depuis l'apparition de ce plan Bienvenue en France, qu'il y a une exonération des frais d'inscription qui est accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou en situation d'exil. Mais pour les étudiants réfugiés, pour le coup, là, on n'a pas cette exonération qui est disponible.
Vous lancez un appel sur cette question précise aujourd'hui au gouvernement ?
Oui, ce qu'on demande, c'est une extension de l'exonération des frais d'inscription pour tous les étudiants extracommunautaires qui ont une situation spécifique, tant réfugiés qu'avec une protection subsidiaire et exilés, de façon à ce que tous ces étudiants qui ont déjà une situation compliquée personnellement ne soient pas impactés d'autant plus par devoir avancer des frais qui potentiellement sont inexistants pour ces personnes-là.
Cette rentrée universitaire qui pourrait ne pas se réaliser sous la menace de la crise sanitaire, c'est tout de même un soulagement pour vous aujourd'hui ?
Alors oui, c'est un soulagement parce que, évidemment, quand on parle de précarité étudiante, on va aussi parler de précarité sociale. Ça, c'est quand même une chose qui revient vers du positif. On a le retour des rencontres entre les étudiants, le déconfinement, etc. C'est quelque chose qui était très attendu. Malheureusement, il y a quand même cette épée de Damoclès que tous les étudiants vont subir avec cette précarité financière et qui va être d'autant plus forte à la rentrée avec une inflation qui risque très certainement d'augmenter. Donc on est rassuré d'un point de vue social, mais en même temps très inquiet sur d'autres facteurs.
Vous déploriez la situation des étudiants qui ne sont pas titulaires de bourse. Estimez-vous que les critères de bourse doivent être réévalués ?
Oui, alors du côté de la FAGE, on porte une position depuis quelques années maintenant, c'est la position d'une réforme structurelle des bourses. Dans cette réforme structurelle des bourses, ce qu'on attend, c'est déjà de façon assez évidente, avoir une revalorisation des bourses, une suppression des échelons, de façon à ce qu'il n'y ait plus que 8 échelons différents, mais bien un échelon par étudiant qui prend en considération la réelle situation de l'étudiant ou de l'étudiante, et aussi un versement qui se fasse sur 12 mois, de façon à ce que l'étudiant qui doit continuer ses examens ou ses stages pendant la période estivale puisse aussi avoir un pouvoir d'achat digne de ce nom. Et enfin, de façon plus générale, on a quand même une ambition de réforme des aides sociales de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple d'accès et que les étudiants ne fassent pas face au non-recours aux droits, faute de connaissances et faute de mauvaise mise en valeur des aides qui sont disponibles.
Anne-Laure Siriex, vice-présidente du syndicat étudiant La FAGE, elle est en charge des affaires sociales. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr à Radio Orient, il est 12h18, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.